le sujet.
Une journée d'études, excusez-moi, ça veut dire de quelle heure?
Ben, c'est écrit dessus, voilà. De 10h, j'ai écrit 10h15 à 18h. 10h30 à 18h. Voilà. Alors, donc, on étudiera la Megillah, on commencera par les premiers versets, on continuera. Je ne sais pas où est-ce qu'on terminera, parce que c'est tout un travail, la Megillat Esther. Mais le sujet principal, c'est que Pourim est, par certains aspects, la fête principale de l'année. Alors, quand je dis ça, les gens, ils me regardent d'un air bizarre. Ils disent, bon, ça lui fait plaisir. Pourquoi pas? Mais, alors, c'est pour ça, regardez... Je ne vais pas refaire les études qu'on a faites des années précédentes, bien que ce serait nécessaire, mais il y a plusieurs années, on avait fait des études sur ce point précis. Pourquoi Pourim, justement, est une fête qui n'est pas chômée? Alors, je vous encourage à lire ce texte. Hein. C'est, comme je disais, c'est gratuit, prenez-le pour chez vous. Bien. Alors maintenant... On rapporte, au nom de Rabbi Yitzhak Luria, que Pourim est plus important que Yom Kippour. Et en vérité, j'ai vu dans un commentaire le prix de Tzadik de Rabbi Tzadok à Cohen. Il dit qu'en vérité, c'est écrit dans le Zohar. Fondamentalement, c'est un thème, une thématique dans le Zohar. Alors, pourquoi? Ce n'est pas le thème ce soir. Mais en tout cas... Pourim est une fête principale. On va, demain soir, commence le mois de Hadar, et on dit, Meshenirnas Hadar, Marbim et Simcha, à partir du moment où commence le mois d'Hadar, on multiplie la joie. Alors, le sujet, c'est le sujet que j'ai testé, c'est de quoi on a à se réjouir. C'est-à-dire, les gens vont dire, oui, mais tu vois le contexte, où est-ce qu'il y a être joyeux? Voilà. Où est-ce qu'il y a être joyeux? Tu lis tous les jours des nouvelles encore plus accablantes. Et c'est... Où ça se passe? Où y a-t-il matière à être Bessimcha? Oui, c'est une blague. Alors, c'est vrai, Pourim, c'est la fête des blagues. Et d'ailleurs, j'ai entendu une explication sur ce sujet magnifique. Au nom de Rav Chaim Yaakov Rotenberg, le père du Rav Rotenberg actuel, qui relevait que les trois patriarches, Abraham, son nom a changé de Avram à Avraham. Yaakov, son nom a changé de Yaakov à Israël, à Yeshurun. Mais un qui a gardé toujours le même nom, c'est Yitzhak. C'est-à-dire que la constante du peuple juif, c'est une blague. Voilà. C'est aussi une blague.
Une blague dans ce qu'il
est. Une blague, on n'explique pas les blagues. Voilà. Donc le point constant, c'est-à-dire que quand il est né, tout le monde dit c'est pas possible. Et cet aspect, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est la constance du peuple juif. Alors, on va essayer de rentrer dans le sujet. Donc, le sujet, donc ce soir, je dirais, c'est en quoi Pourim est la fête centrale de l'année. Et son corollaire, si c'est la fête de la joie, où y a-t-il matière à se réjouir, à rigoler? Où y a-t-il
matière à multiplier. La joie, quelle joie.
Alors, Rambam dit que au temps messianique, je vais vous lire dans le texte. Donc, Rambam conclut les lois relatives à Pourim par la phrase suivante. Laissez un petit peu la porte ouverte, s'il vous plaît. Rambam conclut toutes les lois relatives à Pourim par la phrase suivante. Kol sifrei hanevi'im vechol haktuvim atidim leibatel emot hamashiach. Chutz memigilat Esther. Tous les livres des prophètes et des hagiographes seront caducs au temps messianique, sauf le rouleau d'Esther. Verai kaimet ke chamisha chumshe Torah ve ke ilchot shel Torah shebe'al peh. Le rouleau d'Esther est éternel comme les cinq livres de la Torah et comme les lois orales de la Torah orale qui ne s'annuleront jamais. Donc, lorsqu'il y aura les temps messianiques, les livres de Ishayahu, de... même les Tehillim, Cantiques des Cantiques, n'auront plus d'intérêt. Il restera les cinq livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Incroyable. Ah, c'est une blague ou quoi? C'est une blague. Mais c'est quand même dans Rambam. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre, en vérité, je vais vous dire sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le vivre. En quoi le rouleau d'Esther est central dans notre existence, comme les cinq livres de la Torah. C'est ça l'intérêt. Alors on va y aller petit à petit. On va voir d'abord un passage dans Traité Roulin. Alors, regardez, il y a des gens qui ont l'habitude de venir au cours du mardi soir parmi vous, il y en a qui n'ont pas l'habitude. Ceux qui ont l'habitude, tant mieux. Ceux qui n'ont pas l'habitude, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, pour que ça ait un intérêt, on ne va pas faire les choses rapidement. On prend le temps qu'il faut pour pouvoir intégrer les choses. Et si le sujet n'est pas terminé, on continuera mardi prochain. Voilà, il n'y a rien qui presse. On prend tout notre temps jusqu'à ce qu'on ait bien fait le tour du sujet. Alors, je vous passe une photocopie. On va, comme d'habitude aussi, pour ceux qui sont habitués, on va prendre un peu des chemins détournés. C'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas faire autrement. Alors, c'est Daf Kouf Lametet Amoud Bet dans Traité Roulin, 139b dans Traité Roulin. Et je vous ai souligné où ça commence. Je vous ai souligné où ça commence. Vous voyez, une petite flèche. Voilà.
Merci.
Alors, donc, c'est là où c'est souligné, n'est-ce pas ? Bien. La Gemara pose une question énigmatique. Moshe minatora minayin. Moshe. D'où savons-nous que Moshe... D'où apprenons-nous Moshe dans la Torah ? Bizarre, hein ? J'ai prévenu, énigmatique. D'où apprenons-nous Moshe dans la Torah ? Comme dit le verset à la fin de Bereshit, Beshegam ou Bassar, parce qu'en fait, il est chair. C'est-à-dire que Dieu dit, vous pouvez là, il y a de la place. Parce que tout le monde se met au fond, là, je ne sais pas, c'est... Vous n'avez pas osé d'être cancre dans, quand vous étiez jeune, maintenant vous l'assumez dans un âge plus mûr, ou... je ne sais pas, ou... ça va Serge, ça boum. Alors, il y a un texte pour mademoiselle, il n'y en a plus, ou...
Voulez... Excusez-nous, je comprends l'hébreu, mais je ne le lis pas.
C'est pas grave, allons passer, mademoiselle. Alors, j'ai, c'est là où j'ai mis la flèche. La Gemara demande, pose une question énigmatique. Moshe minatora minayin. D'où savons-nous que Moshe... Et dans la Torah. D'où savons-nous que Moshe est dans la Torah ? Comme dit le verset à la fin de Bereshit, Beshegam ou Bassar, c'est-à-dire Dieu dit, je ne demanderai pas des comptes éternellement à l'homme, parce qu'en fait, il est chair. Parce qu'en fait, il est chair. Parce qu'en fait, parce que en fait, en hébreu, ça dit Beshegam. En valeur numérique, c'est pareil que Moshe. Beshegam, Moshe. La valeur numérique de Moshe, c'est 345. Beshegam, c'est aussi 345. C'est-à-dire que à la fin de Bereshit, c'est écrit Dieu voit que les actes des hommes sont très dégradés. Les actes des hommes sont très dégradés. Il dit, je ne vais pas les laisser vivre aussi longtemps qu'ils ont vécu, 900 ans, 800 ans. Non, je donnerai 120 ans et je ne donnerai pas trop d'échéance à leur vie. Et je ne me disputerai pas éternellement avec eux, Beshegam ou Bassar, parce qu'en fait, il est chair. Parce qu'en fait, valeur numérique, 345 comme Moshe. Bien. Ce n'est pas le cœur du sujet, on a déjà étudié ici cette phrase énigmatique. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Aman minatora minayin. Aman. D'où est-ce qu'on sait que Aman est central dans la Torah ? D'où est-ce qu'on sait que Aman c'est central dans la Torah ? Alors Aman, c'est le méchant. Aman c'est le méchant. Mais on sait bien que Aman c'est 1000 ans après le don de la Torah. Il y a eu le don de la Torah. Les enfants d'Israël étaient 40 ans dans le désert. Il y a eu grosso modo, avant la construction du temple, le premier temple, il y a eu 450 ans. Le premier temple a duré grosso modo 450 ans. Ça fait 950 ans, 940 ans. plus 70 ans, plus à la fin des 70 ans d'exil. Donc 960 plus 70, ça fait 1030 ans. 1020 ans. Combien j'ai dit ? Ouais, 1030 ans, d'accord ? 1030 ans, ça fait 1030 ans qu'il y a eu le don de la Torah. Et le Talmud demande Aman, d'où on sait qu'il est dans la Torah. Que c'est dans la Torah. Comme dit le verset, c'est le serpent. Le serpent, non, c'est le serpent, donc il a, une seconde, il a incité Ève à manger du fruit, d'accord. Et ensuite, l'homme, il en a mangé. Vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film. Voilà. Alors, et ensuite, il y a Dieu, il se balade, et il y a Adam, il se cache. Alors, Dieu dit, où est-ce que tu es ? Je suis là. Je suis là. Mais pourquoi tu te caches ? Est-ce que je suis nu ? Tu es nu ? Aminaet, sachez à Marty, je cherche le verset précisément. Le il dit, qui t'a dit que tu es nu? Aminaet, sachez si vitira le bitiachol, mi menu achalta, est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas en manger, t'as mangé? Alors les chachamim, ils ont, comme c'est écrit, est-ce que de l'arbre que j'ai dit de ne pas manger, tu as mangé? Alors, est-ce que de l'arbre, Amin, alors c'est vrai, c'est les mêmes lettres que Aman. Mais là, ils étaient shootés quand ils ont dit ça, là, ce soir-là. C'est faut arrêter le cannabis dans les yeshivot.
Donc en fait, ils font un parallèle entre Aman et Amin pour dire que, ouais, Aman, c'est le serpent, c'est ça ?
Non, c'est pas le serpent, non. Aman, il est... D'où est-ce...
On le voit dans ce passage.
Ouais, on le voit là, ça veut dire... Même, quel est le problème ? Où est le problème ? Il n'y a pas de... Ça veut dire, Aman, bon, il a, on a dit, combien, 1030 ans après le don de la Torah. 1030 ans, il a apparu 1030 ans après, d'accord ? Bien. On a dit, qu'il y a... Ils sont cool, hein, les gens qui viennent, hein, au cours du mardi soir. C'est vraiment cool. Hein. Ça veut dire... C'est 21h, on a dit. Hein.
Travail.
21h. Ça vous fait rigoler, quoi. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, hein. Bon, on n'est pas à l'école. Hein. Bon, c'est bon. Là, moi, ça ne me dérange pas. Mais le point, c'est qu'il faut que je répète, c'est ça. Bon, alors, je ne vais pas répéter. Si vous êtes noyé, c'est pas grave. Alors, je reprends. La Gemara dit, Aman, Minatora, Minay. Aman, dans la Torah, qu'il est Minatora. Par exemple, on pose la question, il y a des choses qui sont rabbiniques, il y a des choses qui sont d'après la Torah. Il y a des choses rabbiniques. Par exemple, Netilat Yadayim, c'est une institution rabbinique. Netilat Yadayim, c'est une institution rabbinique. Comme on voit dans le traité Choulin, au début, quand la Bassar, la Gemara dit, c'est une institution rabbinique. Ça s'appelle Midé Rabbanan. Il y a des choses qui sont d'après la Torah. Des choses qui sont d'après la Torah. C'est quoi d'après la Torah ? Par exemple, créer un chemin, faire chemin le matin, chemin le soir, ça c'est d'après la Torah. Il y a des choses... Quand on pose la question Aman Minatora, c'est d'où est-ce qu'on sait que Aman, Il est midoraita. Do you understand? Quand on dit Aman Minatora, ça veut dire Aman, c'est pas rabbinique, c'est midoraita. Oh, en plus il pose des questions là. Où est-ce qu'on va là? C'est il y a des trucs rabbiniques. Ouais, il y a des trucs rabbiniques. La lecture de la Megillah, Pourim, c'est rabbinique. Pourim, c'est rabbinique. C'est clair. Évidemment, c'est rabbinique. C'est sûr que c'est rabbinique. Pourquoi c'est rabbinique? Parce que, on a dit, c'est 1030 ans après le don de la Torah. C'est évidemment rabbinique. Moïse, il n'a pas fait Pourim. Ça, c'est clair. Je pense, on peut, là, on vote. On est d'accord. C'est bon. Il y a un consensus mou là-dessus. Maintenant, le Talmud demande, mais Aman, d'où savons-nous que lui, il est d'après la Torah?
Parce qu'il ressemble au serpent.
Non, parce qu'on le retrouve à chaque fois, ça c'est l'histoire.
Est-ce qu'il ressemble?
Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset. Est-ce que de l'arbre que je t'ai demandé de ne pas en manger, t'en as mangé? Ok. Ce que moi, je dis en français, c'est n'importe quoi. Il y a le même mot, c'est le même mot, bon, c'est bon. Ok. Allez, maintenant, soyez brillants, expliquez-moi ça. Moi, j'en ai marre.
Amine, en fait, ça veut dire quoi exactement?
C'est est-ce que de? Est-ce que de? Est-ce que de? Voilà, Amine, Aman, Aman, est-ce que de?
Est-ce que de?
C'est beau, hein, est-ce que de?
Oui, c'est la question.
Oui, alors.
Mais la potence où elle a été pendue.
Oui, il y a un arbre, oui, alors.
Non, mais finalement, Aman, c'est aussi est-ce que de? C'est remettre la question du peuple juif en question. C'est.
Est-ce que de s'est posé?
Est-ce que ce peuple a le droit de vivre? Lui, il a répondu non, mais c'est aussi c'est cette question que tu poses.
Alors, regardez. Je pense, le point, on va répondre, savoir avec ce que tu dis, la chose suivante. Parce que Aman, on sait que c'est Amalek. Amalek. C'est pas seulement que Amalek, il est très méchant.
Mais on le sait de Minatora ou de Ravanim, que c'est Amalek.
C'est écrit dans le verset. C'est écrit à Agagi, Aman à Agagi, l'Agagéen, au Agagéen, c'était le roi d'Amalécite. Ça c'est écrit dans les versets, dans le livre de Samuel, Shmuel.
D'accord.
Ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Maintenant, Amalek a construit, vous avez dit, une potence de 50 coudées. On voit dans le rouleau d'Esther, une potence de 50 coudées.
C'est Aman.
Aman.
Oui. C'est Aman. Aman. Aman a potence, ce que vous dites. Etz, un arbre de 50 coudées. Les commentateurs disent que, en vérité, il revendiquait une connaissance supérieure à la Torah. Pourquoi? Il y en a qui disent que le monde, c'est du hasard. Alors, Pourim, c'est quoi? Pourim, c'est la fête des sorts. En français, c'est la fête des sorts. C'est la fête du hasard, puisque Aman, il a tiré au sort quel jour le peuple juif, il y aurait le décret d'extermination du peuple juif. Lui, il revendiquait le hasard. Or, on voit dans le verset que dans Parashat Kitetsé, à la fin, on voit que, souviens-toi de ce que t'as fait à Amalek, un cher Kochaba derrière, qui était tombé par hasard. Il était tombé comme ça, paf, par hasard. Mais pas par hasard comme ça, il revendique qu'en vérité, le monde, il y a du hasard. Qu'il y a du hasard, que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Et que le monde, c'est il n'y a pas Dieu. Il revendique qu'il n'y a pas Dieu. Il y en a dans le monde qui disent que non, le monde, c'est du hasard. Ça, c'est Amalek qui revendique. Et en vérité, il le prouve. De la Torah. Pourquoi ? Parce que Dieu dit à Adam... Adam, il dit, moi, je me cache. Parce que je suis nu. Alors, Dieu, il dit, ah, petit coquin, est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, t'as mangé ? Qu'est-ce que Dieu, lui, il ne sait pas, Dieu ? Qu'est-ce qu'il ne sait pas ? Et ça veut dire, s'il pose la question, ça veut dire qu'il ne sait pas. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez ? Dieu sait ou il ne sait pas ? Alors pourquoi il pose la question comme ça ?
Parler de l'homme, l'homme doit s'affirmer, de se dénoncer.
Comment ? Ah, donc regardez, ici, c'est...
C'est une prise de conscience.
Comment ?
C'est une prise de conscience, il fait prendre conscience du péché qu'il vient de faire.
Oui, alors regardez, ce que vous dites, mesdames, c'est en vérité... C'est toute l'histoire de l'humanité qui est là. Ça n'a pas l'air. Mais... Ça n'a pas l'air. Mais Dieu, il nous laisse nous poser des questions. Pourquoi ? Vous l'avez dit. Pour que l'homme s'affirme, pour que l'homme fasse sa démarche. Il aurait pu dire, tu es nu ? Il a dit, ah bon, t'es nu ? Quoi, ah bon, t'es nu ? Ah bon ? Ah, Dieu, alors, mais Dieu, il ne sait pas ? Non, mais vous l'avez très bien répondu. Il pose la question, c'est pas qu'il ne sait pas. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des questions dans le monde. Ça veut dire que Dieu n'écrase pas ses créatures. Il laisse ses créatures avoir une place pour qu'elles fassent leur chemin, pour qu'elles réalisent qu'est-ce qu'elles font. Donc, ça veut dire que Dieu, finalement, ne sait pas ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu... C'est là, Aman, il est là. Aman est là. Il est écrit dans la Torah, Aman. Où ? Là. Il est là, on l'a trouvé, Aman. Il est dans la Torah. Vous avez vu ? On l'a trouvé, Aman. Là, où est-ce qu'il est, Aman ? Dans les béances qui sont dans le monde. Il y a des questions, des choses qu'on ne comprend pas. Incompréhensible. Ah, si c'est incompréhensible, donc ça veut dire que ça n'a pas de sens. Non ! C'est incompréhensible pour que tu cherches. Ça veut pas dire que ça n'a pas un sens, ça a peut-être un sens. Mais pour que tu cherches ce sens. Ah, donc ça veut dire que ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire, si on a trouvé des os de dinosaures, donc ça veut dire que la Bible, elle est fausse. Non. Peut-être oui. C'est faux.
Bien sûr.
Bien sûr que quoi ?
Bien sûr qu'il y avait d'autres mondes avant.
Non, donc on va donner des réponses.
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, pour qu'on cherche, mais si Dieu... nous laisse des béances. C'est pas qu'il y a des béances. Donc Aman, il est là. Il est dans le fait que Dieu n'écrase pas ses créatures. Que les créatures, elles puissent émerger. C'est ça, Aman, minatora, minaïn. Aman, en vérité, la thématique de Aman, elle est au début, elle est fondamentale dans la Torah. C'est toute la Torah est sur la thématique d'Aman. C'est dans la Torah, Aman, la thématique d'Aman est dans la Torah. Donc, voilà. Maintenant, continuons le texte du Talmud que je vous ai fait, dont je vous ai fait la photocopie. Esther, mina Torah, minaïn. Esther, où est-ce que Esther est dans la Torah ? Esther, Esther, elle est paraminique. Esther, Esther, donc la reine Esther, c'est pas rabbinique. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que Maïmonide conclut les lois de Pourim en disant que le rouleau d'Esther est éternel comme les cinq livres de la Torah. Les psaumes de David, un moment, ça sera caduque. Le livre de Isaïe, caduque. Le livre de Samuel, caduque. Le rouleau d'Esther, éternel. Mais qu'est-ce qu'il y a d'éternel là-dedans? Alors en vérité, c'est ce que ici le Talmud, petit à petit, va décortiquer. Esther, c'est dans la Torah. Ah bon? Mais Esther, c'est 1030 ans après le don de la Torah. D'où est-ce que c'est? C'est d'après la Torah. Comme dit le verset, Vanochri Aster Astir Panay Bayomahu. Je vous lis le verset intégralement, là il est rapporté trop succinctement dans Dvarim Lamed Alef. On va y aller. Voilà. C'est dans Parashat Vayeler, chapitre Lamedele, verset Yotret, donc chapitre 31, verset 18. Vanochi Aster Astir Panay Bayomahu. Dieu dit, caché, je Anochi, Véanochi, ça veut dire. Dieu dit, caché, je cacherai mon visage ce jour-là. Il y aura un moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu cachera son visage. Et ça, en vérité, c'est le rouleau d'Esther. Parce que dans le rouleau d'Esther, il n'est pas écrit une fois le nom de Dieu. Il n'est pas écrit une fois le nom de Dieu dans le rouleau d'Esther. C'est incroyable. On a dit tout à l'heure dans Maïmonide que le rouleau d'Esther est éternel comme les cinq livres de la Torah. Mais il y a une particularité, c'est que c'est un livre de la Torah, il y a le nom de Dieu plusieurs fois, vous avez remarqué. Mais dans le rouleau d'Esther, pas une fois. Et d'où est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas accidentel, c'est fondamental. D'où on sait que c'est fondamental? C'est écrit dans la Torah. Le verset dit « Vanochi aster astir panay bayomahu ». Alors regardez, et ça, je pense que ça, ce verset est la thématique de Pourim. Toute la thématique de Pourim, et pas seulement la thématique de Pourim. Je reprends pour les personnes qui sont venues après la bande-annonce que nous voulons prouver que Pourim est la fête la plus importante de l'année. Et nous allons démontrer, et toc, que quoi? La thématique du rouleau d'Esther est dans ce verset. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce verset? Est-ce que, je répète, Dieu dit « Vanochi Esther », ça veut dire « je me cache ». Le mot « Esther », c'est « se cacher ». Les « astir », c'est « cacher ». Esther, c'est « se cacher ». Mais le verset dit « Vanochi aster astir panay ». Dieu dit « je me cacherai ce jour-là ». Alors, regardez. Ce passage, bon, ça fait longtemps que j'ai étudié ce passage dans le Talmud, mais cette semaine, j'ai vu un commentaire de Rabbi Tzadok HaKohen dans les cours qu'il faisait dans le livre qui s'appelle Prit Tzadik. il relève un point dans ce verset que je n'avais pas réalisé. Que ce verset est une bombe atomique. Est-ce que vous avez vu les radiations atomiques du verset ? Avez-vous senti le Fukushima mental ? Les radiations thermonucléaires ? Non. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Je vais écrire le verset.
Ve'anochi, la Gemara dit, vous l'avez devant vos yeux. Ve'anochi aster astir panay. Ve'anochi aster astir panay. Je cacherai mon visage. Rabbi Tzadok HaKohen, grand maître qui est décédé il y a une centaine d'années, il relève une anomalie dans le verset. Parce que Anochi est la manière dont Dieu se présente aux 10 commandements. Anochi, ça veut dire, et nous l'avions à l'étude il y a 2 semaines relevé, ça veut dire Dieu dit j'existe. Anochi est l'expression de l'existence maximale. Que dire je suis, c'était la thématique que nous avions travaillée il y a 2 semaines avec plusieurs d'entre vous ici. Est-ce qu'on existe ? L'existant fondamental, c'est Akadosh Baruch Hu qui commence à parler j'existe. Ici, le verset dit qu'arrivera un moment, on ne me verra pas, mais je continuerai à exister. Je continuerai à exister. Je suis caché, mais je suis. D'où Esther ? C'est ça en vérité le rôle d'Esther. C'est comment il y a de l'existence quand Dieu est caché. Où est notre existence ? Où est notre place ? Lorsque Dieu est caché. Quand Dieu est visible, il y a des périodes où on va au temple de Jérusalem, on voit des miracles, on voit, les sages disent qu'il y avait 10 miracles constants dans le premier temple. On allait au temple, les gens voyaient qu'il y avait les chérubins au-dessus de l'Arche d'Alliance, au-dessus du Aaron à Kodesh. Il y avait les chérubins qui se regardaient et qui bougeaient. C'était des statues faites par l'homme, mais elles bougeaient. Elles exprimaient la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Parfois, comme dans un, ça représentait un jeune homme, une jeune fille. Des fois, c'était comme dans un couple. Des fois, ils ne veulent pas se regarder. Ils se font la tête, et ben ils voyaient au temple, malin, et des fois ils voyaient, ils se regardaient gentiment, des fois tendrement, et ils voyaient la présence divine. Il y avait des prophètes. C'est quoi des prophètes ? Nous, on a une technologie extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez une même machine que moi. Ouais. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais à l'époque, il y avait une technologie plus extraordinaire. C'est Dieu qui parlait à l'homme. Non polluant d'ailleurs, parce que là il y a des matières assez polluantes. Mais c'était pas polluant. C'était Dieu parlait à l'homme. Ça veut dire, il y avait. C'était pas évident. Regarde, c'est pas évident. Dieu qui parle à l'homme, imaginons, et quelqu'un il dit voilà, Dieu m'a dit que. Et il va se passer ci, il va se passer ça. Comment on sait que c'est un vrai prophète ? C'est écrit dans la Torah. Il va te dire précisément qu'est-ce qui va se passer. Et si ça se passe. Alors là. Donc on voyait la présence de Dieu. Maintenant, il y a des périodes, le verset dit, arrivera un moment, Bayom Ahou, on ne verra pas mon visage. Mais j'existerai, Anochi Aster, Anochi, il y aura toujours la même dimension d'existence, mais à dimension cachée. Ça, c'est la thématique, en vérité, ça, la thématique est la même. que le rouleau de la Torah. Les cinq livres de la Torah, c'est la dimension qu'Akadosh Baruch Hu existe et se dévoile. Mais il y a une autre dimension, Akadosh Baruch Hu existe, combien même n'est-il pas dévoilé. Mais il existe aussi fort que quand il se dévoile. Ça, c'est la thématique du rouleau d'Esther. C'est au même niveau. Anochi dans les deux, Vanochi. C'est au même niveau. Ça, c'est la thématique du rouleau d'Esther. Alors, maintenant, fort de cette introduction, j'aimerais reprendre la question de départ. Question de départ. Demain soir, commence quand je prends Shabbat. Demain soir commence Rosh Chodesh Adar. Il y a deux jours de Rosh Chodesh. Or, la Mishnah dans le traité Tanit dit, mais chez Nirna Sadar, Marbim Besimcha. À partir du moment où on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Mais comme dit l'autre, ou aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous ouvrez les journaux, tous les jours, il y a encore d'autres catastrophes. On a des massacres, il y a des trucs. Moi, je ne regarde pas les trucs sur Internet. Mais les gens ils me disent, on peut voir des gens qui coupent des têtes et des trucs. J'ai dit aux élèves, pour mettre de l'ambiance ce matin, je leur ai dit, on en vient presque à regretter les nazis. Non, je blague. Hein, c'est une blague. Hein, c'est une elle est pas excellente. Elle n'est pas très très bonne. Elle n'est pas... Mais disons, c'est pas une blague très bonne. Elle n'est pas fine, elle est un peu lourde. Hein. Mais comment dire, c'est d'autres méthodes. Au moins les nazis, ils faisaient des usines, c'était technocratisé. Mais là, c'est franchement autre chose, c'est une autre culture d'entreprise. Enfin, c'est autre chose. Mais
c'est une petite entreprise déjà.
Comment ?
C'est une petite entreprise déjà.
Je ne sais pas si c'est vraiment une petite. Hein. Ça n'a pas vraiment l'air. Ça n'a pas vraiment l'air d'une petite entreprise. Mais en tout cas, c'est franchement pas rigolo. Alors, je veux dire, je vais vous dire, pour vous donner l'exemple, là, il y a eu la fusillade dans le centre culturel là-bas. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait l'ambassadeur de France là-bas. Hein, vous avez sûrement vu.
Zimré.
Ben, l'ambassadeur de France, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui vient à mes cours.
Ah bon.
Et il y a quelques mois, il y avait son épouse qui était à ce cours du mardi soir. C'est quelqu'un que je connais très très bien. Ça veut dire... et le type, il a failli y passer. Je veux dire, le type qui est venu là pour fusiller... il est venu pour je crois qu'il a été empêché, mais il s'était parti que mon ami il était sur la liste. Donc c'est pas qu'on voit ça dans les journaux, c'est des gens qu'on connaît. Sans parler de ce qui s'est passé au mois de janvier ici à Paris. Alors tout ça pour dire. Où il y a même être saméar là-dedans, on a l'impression qu'on fait un chiloul Hashem d'être saméar. C'est-à-dire, de quel droit on va se réjouir? On va faire les imbéciles, tout ça, en joyeux, on va remercier Dieu, sur quoi? Alors, ça c'est vraiment, franchement, c'est pas évident. Alors, on va voir un passage, c'est pas sur le rouleau d'Esther, mais dans au début de Shemot. Prenez un chumash Shemot. Il y a des chumash là, vous passez. Au début de Parashat Shemot. Mais regarde, te casse pas la tête, je vais traduire, Abraham. Je vais traduire. Ça, c'est pas en français. Non, Abraham, c'est pas grave, je vais traduire. Ok.
Merci d'avoir pensé.
Bien. Alors, au début de Shemot, les Égyptiens veulent résoudre le problème juif. Petit à petit, ils font des travaux forcés. Mais on voit que plus ils faisaient des mesures anti-hébreux, plus les Hébreux se développaient. Dans l'adversité, les Hébreux se développaient. Alors, il a dit, il a nommé des femmes pour accoucher les femmes juives, et en disant, les garçons, il faut les tuer. Ensuite, il a dit, les enfants, pas seulement les garçons, il faut les tuer, les garçons, il faut les noyer. Okay. Regardez, chapitre Aleph, verset Kavbet, chapitre 1, verset 22, finalement, « Vayetzav paro lechol amo les morts, kolaben ayelod ayora tashlichu vecholaba techayud. » Pharaon a ordonné à tout son peuple en disant, « Tout garçon qui naît dans le Nil, vous le jetterez, et toute fille, vous ferez vivre. » Tout garçon qui naît, vous le jetterez dans le Nil, et les filles, vous ferez vivre. Donc, c'est vraiment un décret absolument atroce. Bien. Alors, laissez les versets ouverts. Laissez ça ouvert. On va voir un passage dans le Talmud. Et ensuite, on prendra le verset d'après. Je vous passe les photocopies. C'est dans le traité Sota, Yudbet. 12, page 12, dans le traité Sota. Alors, je vous ai mis un petit trait. Bon, regardons le verset suivant et on va voir ensuite la Gemara. Excusez-moi, on regarde les deux versets suivants, ensuite on prend la Gemara. Donc, Pharaon a dit, les garçons, il faut les noyer et les filles, il faut les faire vivre. Verset suivant. Vayaler Ish, mi Bet Levi, Vaikar et Bat Levi. Un homme de la maison de Lévi est allé et il a pris la fille de Lévi, il a épousé la fille de Lévi. Vatahar Aisha, Vatel et Ben, Vatere Oto Kitovu, va-t-il spenner ou shlosha yerachim? Donc, un homme de la maison de Lévi est allé, il a pris la fille de Lévi. La femme a été enceinte, elle a mis au monde un garçon, elle a vu qu'il était bon. Rashi dit, quand il est né, la maison s'est remplie de lumière, il était tout plein. Plein de lumière, cet enfant. Vatis Peneu Shlosha Yerachim, elle a réussi à le cacher 3 mois. Verset suivant. Velo Yochla Od Atspino, elle n'a pas plus le cacher. Vati Carlo Tevat Gomé, elle a pris une corbeille de jonc, etc. Vous connaissez la suite. Alors, pourquoi elle a pu le cacher 3 mois? Pourquoi elle l'a caché 3 mois? Elle a réussi à le cacher 3 mois et pas plus que 3 mois. Comment ? Alors, l'explication de Rashi, c'est qu'il était prématuré. Et que la police égyptienne a vu que ce monsieur, à partir du moment où il a épousé cette dame, ils ont compté 9 mois minimum, et ils se sont dit, bon, au minimum, 9 mois, puisqu'elle n'est pas forcée, elle ne tombe pas tout de suite enceinte, ouais, mais au minimum, dans 9 mois, il peut y avoir un enfant dans ce couple. Donc, c'est des fonctionnaires, ils ont dit, 9 mois, on revient, dring, ouais, police, ouais, un bébé, machin. Alors, mais, il est né à 6 mois, d'accord ? Ça, c'est le sens simple, d'accord ? C'est le sens simple du verset. Yes ? Bien. Alors, ça, c'est l'explication simple que donne Rashi sur le verset. Mais, le Talmud donne une autre explication. Alors, je vous explique le contexte. Le Talmud a une autre thèse. C'est qu'en vérité, c'est quoi ? Vayeler ish mi bet Lévi. Il est allé un homme de Lévi. En vérité, c'est Amram. Amram, le père de Moïse. Amram. Il alla et il a pris la fille de Lévi. La fille de Lévi, c'est Yocheved, fille. Petite fille de Jacob, fille de Lévi, fils de Jacob. D'accord ? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il alla. Le Talmud, dans la page que je vous ai photocopiée, dit qu'il alla sur le conseil de sa fille, qu'en vérité, quand il y a eu le décret de tuer systématiquement tous les petits garçons, alors Amram, il a dit, on ne peut plus continuer à cohabiter, il ne faut plus mettre des enfants au monde. Parce que on met des enfants au monde pour qu'ils soient massacrés. Donc, lui, c'était un des responsables des Hébreux. Il a divorcé sa femme. Or, il y avait déjà 2 enfants qui étaient nés. Il y avait Myriam et Aaron. Et Myriam, le Talmud dit, mais papa, tu es pire que Pharaon. Elle a fait la petite féministe, là. La petite fille, elle a dit, papa, toi tu penses qu'aux garçons et les filles. À cause de toi, Pharaon, il a dit les garçons, mais il n'a pas dit les filles. Ok, ils vont tuer les garçons, mais les filles, hein ? Alors, il a dit, bah, t'as raison, ma chérie. Va y aller, ish mi bet Lévi. Il a là un homme de la maison de Lévi, et il a pris la fille de Lévi. Il a là, ça veut dire, il a là sous le conseil de sa fille. Envers sa fille, elle a changé tout l'ambiance. Voilà. Ok ? Bien. Regardez maintenant le Talmud. Bon, alors c'est un peu du Talmud. Il faut, pour comprendre, il faut niveau brevet des collèges. Hein ? Enfin, ça veut dire, à un moment, il faut un peu réfléchir. Désolé. Hein.
On est du CP.
si vous avez brevet des collèges ou équivalence, je pense qu'on va s'en sortir. C'est bon ? Ça va aller ? Ou équivalence, hein, on n'est pas ici pas trop rigoureux. Ok. Alors regardez. Vatar alti Aïcha vatelet ben. La femme fut enceinte et elle mit au monde un fils. Là-dessus, le Talmud dit, c'est en araméen, Vea avam yabra betlata yechem eikara. Mais elle était déjà enceinte de 3 mois au départ. Le Talmud a une autre thèse que Rashi, que, en vérité, pourquoi elle a pu garder l'enfant 3 mois, ce que les policiers ne savaient pas, c'est qu'avant qu'ils se séparent, elle était déjà enceinte. Donc quand il l'a réépousée, Amram, il a réépousé Yocheved, elle était enceinte de 3 mois. Ils ne le savaient pas. Eux, ils croyaient qu'il fallait mettre le compteur à partir de ce moment-là, 9 mois, mais elle était déjà enceinte de 3 mois. Donc c'est pour ça. Et il est né à terme, à 6 mois après. En vérité, la thèse du Talmud, c'est qu'il est né à terme. Ouais, bien. Amar, Rabbi Yehuda Bar Zvina. Rabbi Yehuda Bar Zvina va nous enseigner un principe fondamental. Alors, si il y a 2 thèses. La thèse de Rashi, il est né à 6 mois révolus. Ok ? C'est la thèse simple. Le Talmud propose une autre thèse simple aussi, qu'il est né à terme. Mais si on dit qu'il est né à terme, c'est pour ça qu'elle avait 3 mois de grossesse quand il l'a réépousée, les policiers ne le savaient pas. Elle n'avait encore pas mis de robe de grossesse. Non, je blague. Ouais. Alors, mais les policiers ne savaient pas. Alors, il y a une anomalie, puisque le verset dit, regardez, « Vayelerish mi bet Lévi, vayekaradet bat Lévi. » Un homme de la maison Lévi est allé prendre une fille de Lévi. « Vatar aisha vatelet ben. » La femme a été enceinte et elle a mis au monde un fils. Mais non, elle était déjà enceinte. Pourquoi dit, on dirait, Vata'ar Aïcha, elle a été enceinte après? C'est une anomalie. C'est sûr que Rashi, la thèse de Rashi, rend compte de cette anomalie. Mais si on dit qu'il a pu, elle a pu le garder parce qu'il est né à terme, donc ça veut dire qu'elle était déjà enceinte quand il l'a réépousée. Donc, il ne faut pas dire qu'elle a été enceinte après, elle était enceinte avant. Vata. Pourquoi c'est écrit après?
Vata'ar, ça veut dire après.
Elle est enceinte. Non, c'est pas après, ça veut dire il l'a prise, Vata'ar, elle a été enceinte et elle a accouché. Vata'ar, Vatelet. Amar, Rabbi Yehuda Barzvina, Makish le data le rata. C'est pour nous apprendre un principe fondamental. De mettre en relation